Lizzie présente Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Lue par Aline Afanoukoui. Mona Chollet est journaliste au monde diplomatique. Elle est notamment l'auteur de « Beauté fatale », « Les nouveaux visages d'une aliénation féminine » et de « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique. Inutile d'adhérer à Witch. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Manifeste de Witch, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, New York, 1968. Introduction, les héritières. Bien sûr, il y a eu celle du Blanche-Neige de Walt Disney, avec ses cheveux gris filasses sous sa capuche noire, son nez crochu orné d'une verrue, son rictus imbécile découvrant une dent unique plantée dans sa mâchoire inférieure, ses sourcils épais au-dessus de ses yeux fous qui accentuaient encore son expression maléfique. Mais la sorcière qui a le plus marqué mon enfance, ce n'est pas elle, c'est Floppy le Redoux. Floppy apparaît dans Le Château des Enfants Volés, un roman jeunesse de l'autrice suédoise Maria Grip, 1923-2007, qui se déroule dans une contrée nordique imaginaire. Elle vit dans une maison perchée au sommet d'une colline, abritée sous un très vieux pommier dont la silhouette, visible de loin, se découpe sur le ciel. L'endroit est paisible et beau, mais les habitants du village voisin évitent de s'y aventurer, car autrefois s'y dressait une potence. La nuit, on peut apercevoir une faible lueur à la fenêtre, tandis que la vieille femme tisse tout en conversant avec son corbeau, Solon, borgne depuis qu'il a perdu un œil en se penchant sur le puits de la sagesse. Plus encore que par les pouvoirs magiques de la sorcière, j'étais impressionnée par l'aura qui émanait d'elle, faite de calme profond, de mystère, de clairvoyance. La façon dont son apparence était décrite me fascinait. Elle sortait toujours enveloppée dans une ample cape bleu foncé, dont le large col, claquant au vent, faisait flop-flop autour de sa tête, d'où le surnom de Floppy. Elle était aussi coiffée d'un drôle de chapeau. Ses bords souples étaient parsemés de fleurs, retombant d'une haute calotte violette garnie de papillons. Ceux qui croisaient son chemin étaient frappés par l'éclat de ses yeux bleus, qui changeaient continuellement et exerçaient un véritable pouvoir sur les gens. C'est peut-être bien l'image de Floppy le Redoux qui m'a préparé à apprécier plus tard, quand je me suis intéressée à la mode, les créations imposantes d'un Yoji Yamamoto. Ses vêtements amples, ses chapeaux immenses, sorte de refuge de tissu, aux antipodes du modèle esthétique dominant, selon lequel les filles doivent dévoiler le plus de peau et de formes possible. Resté dans ma mémoire comme un talisman, une ombre bienveillante, Floppy m'avait laissé le souvenir de ce que pouvait être une femme d'envergure. J'aimais aussi la vie retirée qu'elle menait et son rapport à la communauté, à la fois distant et impliqué. La colline où s'élève sa maison, écrit Maria Grip, semble protéger le village comme s'il était blotti sous son aile. La sorcière tisse des tapis extraordinaires. Assise devant son métier, elle méditait tout en travaillant. Ses réflexions concernaient les habitants du village et leur vie. Tant et si bien qu'un beau matin, elle découvrit que, sans s'en douter, elle savait d'avance ce qui leur arrivait. Penchée sur son ouvrage, elle lisait leur avenir dans le dessin qui, tout naturellement, se créait sous ses doigts. Sa présence dans les rues, si rare et fugitive soit-elle, est un signe d'espoir pour ceux qui la voient passer. Elle doit la seconde partie de son surnom, personne ne connaît son véritable nom, au fait qu'elle ne se montre jamais durant l'hiver et que sa réapparition annonce de façon certaine l'arrivée imminente du printemps, même si ce jour-là le thermomètre marque encore 30 degrés au-dessous de zéro. Même les sorcières inquiétantes, celles de Hansel et Gretel, ou celles de la rue Mouffetard, ou la Baba Yaga des contes russes, tapie dans son isba juchée sur des pattes de poulet, m'ont toujours inspiré plus d'excitation que de répulsion. Elle fouettait l'imagination, procurait des frissons de frayeur délicieuses, donnait le sens de l'aventure, ouvrait sur un autre monde. Pendant la récréation, à l'école primaire, mes camarades et moi traquions celle qui avait élu domicile derrière les buissons de la cour, obligés de nous en remettre à nous-mêmes face au flegme incompréhensible du corps enseignant. La menace flirtait avec la promesse. On sentait soudain que tout était possible et peut-être aussi que la joliesse inoffensive, la gentillesse gazouillante, n'était pas le seul destin féminin envisageable. Sans ce vertige, l'enfance aurait manqué de saveur. Mais avec Floppy le Redoux, la sorcière est définitivement devenue pour moi une figure positive. Elle était celle qui avait le dernier mot, qui faisait mordre la poussière au personnage malfaisant. Elle offrait la jouissance de la revanche sur un adversaire qui vous avait sous-estimé, un peu comme Fantômette, mais par la force de son esprit, plutôt que par ses talents de gymnaste en juste au corps. Ce qui m'arrangeait, je détestais le sport. À travers elle m'est venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là, une impression diffuse me suggérait que c'était plutôt le contraire. Depuis, où que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Une victime des modernes et non des anciens. Il m'a fallu un temps étonnamment long pour mesurer le malentendu que recouvrait la débauche de fantaisie, l'imagerie d'héroïne au super-pouvoir, associée aux sorcières dans les productions culturelles qui m'entouraient. Pour comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l'imagination ou un titre honorifique, le mot « sorcière » avait été la pire des marques d'infamie. L'imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. Dans la conscience collective, les chasses aux sorcières qui se sont déroulées en Europe, essentiellement au XVIe et XVIIe siècle, occupent une place étrange. Les procès en sorcellerie reposaient sur des accusations extravagantes. Le vol de nuit pour se rendre au sabbat, le pacte et la copulation avec le diable, qui semblent les avoir entraînés à leur suite dans la sphère de l'irréalité, les arrachant à leur ancrage historique. À nos yeux, quand nous la découvrons aujourd'hui, la première représentation connue d'une femme volant sur un balai, dans la marge du manuscrit de Martin Lefranc, le champion des dames, a des allures légères et facétieuses. Elle semble surgie d'un film de Tim Burton, du générique de Ma sorcière bien-aimée ou d'une décoration de Halloween. Et pourtant, au moment où elle apparaît, vers 1440, elle annonce des siècles de souffrance. Évoquant l'invention du sabbat, l'historien Guy Bechtel constate « Ce grand poème idéologique a beaucoup tué ». Quant aux tortures sexuelles, leur réalité semble s'être dissoute dans l'imagerie sadienne et les émois troubles qu'elles suscitent. En 2016, le musée Saint-Jean de Bruges a consacré une exposition aux sorcières de Bruegel, le maître flamand ayant été le premier peintre à s'emparer de ce thème. Sur un panneau figuraient les noms des dizaines de femmes de la ville brûlées comme des sorcières sur la place publique. Beaucoup d'habitants de Bruges portent toujours ces noms de famille et ignoraient, avant de visiter l'exposition, qu'ils ont peut-être eu une ancêtre accusée de sorcellerie, commentait le directeur du musée. Il disait cela en souriant, comme si le fait de compter dans son arbre généalogique une innocente massacrée sur la base d'allégations délirantes était une petite anecdote trop sympa à raconter à ses amis. Et l'on s'interroge, de quel autre crime de masse, même ancien, est-il possible de parler ainsi, le sourire aux lèvres ? En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face.